Vous écoutez
RMC. RMC.
Ils sont sportifs.
Mais je suis que consultant radio.
Ils se voient le week-end.
François de France, c'est comme ça qu'on m'appelle.
Ils forment une grosse équipe.
Il y a cette magie-là, cette France chaleureuse, cette France solidaire, cette France généreuse.
Ils ne pratiquent pas la langue de bois.
Là, Christophe, il va péter les plombs.
Allez, adieu, bon vache cochon.
Ils aiment le rugby,
le foot,
le judo,
l'escrime,
le cyclisme,
le handball,
la voile,
le karaté,
le skateboard,
la pétanque,
le ski,
le biathlon,
le triathlon,
le
décathlon et le golf, bien sûr.
Mais n'importe quoi, il y en a marre.
RMC. Jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
C'est quoi ce cirque?
Jean-Christophe Drouet.
Ah, j'avais jamais entendu cette promo, bravo.
Mais attends, il vient de la fin, il a pas des extraits de l'émission.
Bravo, mais oui, on adore le
incroyable.
Golf.
Incroyable.
Alors après, il y avait le karaté, tout ça, un peu moins, mais le golf surtout, évidemment.
Mais on n'a pas entendu le basket.
Non, mais t'as rien dit sur le basket aussi.
Mais ça va venir.
Vous inquiétez pas, on va parler de tous ces sports, évidemment. Bienvenue dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Julien Beneteau, David Douillet, Fred Weiss. On est très heureux d'être avec vous comme tous les week-ends et sachez-le, les GG ne s'arrêtent jamais, même pendant les fêtes la semaine prochaine, il y aura de nouvelles grandes gueules. Isaac Hadjar dans quelques instants est le nouvel élu, retenez bien son nom, le pilote français débarque en Formule 1. 10h30, on parlera d'un événement rarissime, le Paris Basketball qui a obtenu le report de son match d'Euroleague face à Fenerbahçe. La raison,
voilà, c'est ça le basket, c'est
une épidémie au sein du club parisien. Ce report est-il aberrant? On se posera la question. Et puis 10h45, la crise de la soixantaine signée Christophe Cessieux.
Moi, je voulais parler d'une compétition. On a l'impression qu'elle n'existe plus. Je sais pas, moi, je lis tous les matins un journal de sport de référence. Ça fait 4 jours que j'ai pas vu une ligne, mais pas une ligne sur le Vendée Globe. Alors, soit les bateaux ont tous coulé, soit ça n'intéresse plus personne.
Soit c'est jamais parti.
Ah, c'est peut-être pas parti.
C'est peut-être
encore.
Dans un monde parallèle.
Peut-être.
Oui, ok, tu veux nous parler du Vendée Globe, 10h45. Allez, on va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Sénèque qui a dit un jour : c'est pendant l'orage qu'on connaît le pilote.
RMC. Le bras de fer GG.
Ça t'arrive de rêver?
Pierre Gasly qui remporte son premier Grand Prix en Formule 1. Il partait 10e sur la grille. 24 ans de dizaine. Il vient de conjurer le sort, Pierre Gasly.
C'est toi-même qui disais que tu voulais t'enflammer instantanément.
La grande courbe à droite qui mène à la ligne d'arrivée. Esteban Ocon remporte la première victoire en Formule 1 de sa carrière de pilote de Grand Prix. Génial, génial Esteban. Il a dominé cette course de la tête et des épaules.
Jamais personne ne pourra m'interdire de rêver. Et peut-être qu'un jour, mon rêve deviendra vrai.
Isaac Hadjar, vainqueur pour la deuxième fois de la saison en Formule 2. Le pilote Campos qui s'impose devant Bortoleto.
Come on, baby! Let's go!
C'est le nouveau prodige de la Formule 1 française. À seulement 20 ans, Isaac Hadjar va faire ses grands débuts donc en F1 la saison prochaine chez Racing Bull, l'écurie sœur de Red Bull. Sa signature a été officialisée hier. Son coéquipier se nomme Yuki Tsunoda. Une ascension fulgurante pour le vice-champion de Formule 2 qui avait été désigné pilote réserve pour Red Bull à l'automne dernier. Alors avec Isaac Hadjar, Pierre Gasly, Esteban Ocon, la France sera la deuxième nation la plus représentée en Formule 1 la saison prochaine derrière la Grande-Bretagne. Malheureusement, pour l'instant, dans des écuries secondaires, Racing Bull donc, mais aussi Alpine et Haas. Je rappelle que notre dernier champion du monde français s'appelle Alain Prost et c'était il y a 31 ans. Nos trois Français sont-ils condamnés à faire de la figuration? Oui ou non? Dans le coin gauche, la team non, représentée par David Douillet et Julien Beneteau. Dans le coin droit, la team oui, représentée par Christophe Cessieux. Et Fred Weiss, pour l'instant, messieurs, Cessieux, messieurs Weiss, vous l'emportez, 64% des auditeurs sont avec vous, 36% pour vous, David Douillet, Julien Beneteau. On va en discuter, mais tout d'abord, on va accueillir notre journaliste RMC Sport, spécialiste Formule 1, Nicolas Paul Orsi. Salut Nicolas.
Salut les GG, salut à tous.
Salut Nico.
Alors, les auditeurs découvrent peut-être ce nom, Isaac Hadjar, présente-nous ce nouveau prodige.
Bah, c'est un pilote qui, il y a 4 ans, roulait dans une formule régionale alpine, donc assez loin des radars. Et il a marqué les esprits dans une course de cette formule régionale à Monaco. Il n'avait pas encore 17 ans à l'époque. Levé de rideau d'un Grand Prix de F1. Et c'est là que son talent explose aux yeux de tous. Pole position, victoire en course et puis victoire large en course. Hein. Il est tout de suite repéré par Red Bull et par le conseiller spécial de la marque, Helmut Marko. C'est celui qui a fait venir les plus grands, Verstappen, Vettel, Pierre Gasly... Et donc il se retrouve dans la galaxie Red Bull avec un contrat. Très vite, il découvre la Formule 3, c'est un peu l'équivalent de la 3e division en Formule 1. Première saison de F3, il termine 4e du championnat, il gagne 4 courses et on le propulse directement en F2, l'antichambre de la F1. Cette année, c'était la deuxième saison de sa carrière en F2. Il avait une première saison un peu manquée. Il a terminé vice-champion de la catégorie. Mais ce qui est fort, en fait, c'est que Red Bull, dans son programme de développement des jeunes pilotes, ils placent pas leurs pilotes dans les meilleures écuries du plateau. Ils les testent, en fait. Ils veulent voir ce qu'ils ont dans le bide. Et donc, ils les placent dans des écuries du milieu de plateau, fin de grille. Et donc, Adjar a réussi à jouer le titre jusqu'à la dernière course dans ce type d'écurie-là. Et c'est quand même très fort. Le surnom d'Isaac Adjar, par Helmut Marko, c'est quand même le petit Prost. C'est pour vous donner un aperçu un petit peu du talent du garçon. Il a aussi un énorme caractère. Il est formaté pour gagner cette saison. On l'a entendu être extrêmement agressif avec ses ingénieurs à la radio après une course qu'il devait remporter et qu'il n'a pas gagné à cause d'une erreur stratégique. Donc voilà. C'est un profil aussi particulier, Adjar, parce qu'il mesure 1m67. Et depuis ses débuts en sport auto, toutes les écuries ont dû s'adapter un peu à sa morphologie. Il a eu des pédaliers spéciaux pour pouvoir piloter parce qu'il était trop petit. Donc voilà, c'est quelqu'un d'assez particulier qui va découvrir la Formule 1 avec de l'appétit.
Et on est très heureux de le découvrir. Merci beaucoup Nicolas Paolorsi pour toutes ces précisions. Nous connaissons un peu mieux Isaac Adjar et je suis sûr que vous allez l'adorer, évidemment, chers auditeurs. Nous avons 3 pilotes français en Formule 1 la saison prochaine. C'est déjà arrivé par le passé, même il y a encore pas si longtemps, avec Romain Grosjean, Esteban Ocon, Pierre Gasly. 3 de nouveau la saison prochaine. Sont-ils condamnés tout de même à faire un petit peu de la figuration? C'est notre question. N'hésitez pas à réagir. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai un nom de la part de Julien Beneteau. David Douillet et Julien, vous êtes dans la même équipe, vous êtes des Bressans, ça me paraît logique. Pourquoi non, Julien?
Alors, excuse-moi, je sais, mais sur ma dernière réponse, quand on prépare l'émission, j'ai dit oui. Sur la question posée comme ça, c'est oui. Ils sont obligés de faire de la figuration.
Tu es en train de me dire que tu te désolidarises de David Douillet et que David n'est plus jeune.
Je suis surpris. Et c'est pour ça que j'ai repris nos derniers échanges pour voir. J'ai dit oui. C'est la question posée comme ça. Oui. Ah, oui. Pourquoi?
Quand il a vu que Fred et moi avons dit oui.
Je dis comme ça. Quand tu dis est-ce qu'ils sont condamnés à faire la figuration? Oui, parce qu'ils n'ont pas les voitures. Ils ne sont pas dans les écuries qui vont leur permettre de gagner des courses. C'est ça le problème. Et gagner les championnats alors qu'ils ont le talent. Ça remet pas en cause le talent. Quand on voit l'ascension donc fulgurante de Adjar, on est que curieux de voir ce qu'il va donner.
Et surtout dans le giron de Red Bull.
Dans le giron
et
de Red
Bull. Ça c'est quand même hyper intéressant voir pour
comment,
l'avenir.
Voilà, voir lui comment il va gérer ça. Parce que quand même, c'est tout ou rien chez Red Bull. C'est-à-dire que Liam Lawson, qui est titulaire pour être le coéquipier de Verstappen, il a pas signé toute l'année. C'est-à-dire qu'en cours d'année, il peut très bien se faire dégager et ils peuvent faire monter soit Tsunoda, soit Adjar. Mais on a vu que Gasly chez Red Bull, il s'est fait manger. Albon chez Red Bull, il s'est fait manger. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, Gasly, Ocon, ils ont un talent. Ils ont déjà gagné des grands prix, les mecs. C'est monstrueux. Je suis pas cette année. Ils ont fait 2 et 3 au Brésil avec une Alpine. À mon avis, c'est plus dur de faire.
Alors, objectivement, il y a eu des conditions particulières, il y a eu des courses,
mais je pense que c'est plus dur. Et où quand Gasly a gagné un Grand Prix avec une AlphaTauri, c'est plus dur de faire ce qu'ils ont fait que de gagner les courses avec une Red Bull ou avec une McLaren cette année. La voiture, elle fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on a des pilotes qui sont hyper talentueux, sauf qu'aujourd'hui, le monde de la Formule 1 est fait d'une telle sorte que les meilleurs pilotes ne sont pas forcément dans les meilleures écuries. Il y a quelques exceptions.
Ah, je suis pas.
Non, mais il y a quelques exceptions. Ce que je veux dire que
quand t'as Verstappen, Norris, Russell.
Non, mais voilà. Le duo de pilotes de chez Mercedes. Il mettrait Gasly Adjar chez Mercedes. Je suis pas sûr qu'il finirait pas devant au constructeur.
Ok. Pour toi, Hamilton est cramé, c'est fini.
Non, Russell. L'année prochaine.
Non, Mercedes, il est chez Paris. Ouais, d'accord.
Russell, Anthony.
Tu parlais de la saison.
Il y a plein de nouveaux pilotes. Donc, oui, ils sont malheureusement entre guillemets condamnés à faire de la figuration parce qu'ils n'ont pas le matériel pour exprimer leur talent.
David Douillet.
Non, moi je pense que les 3 pilotes, Ocon, Gasly et maintenant le petit nouveau Adjar, sont en capacité maintenant. Enfin, comment procèdent les écuries, les grosses écuries, celles dans lesquelles on peut gagner un championnat? Elles ont toutes des sous-écuries. entre guillemets, hein, que ce soit Ferrari, que ce soit Mercedes, que ce soit Red Bull, elles testent leurs pilotes en réalité, et elles les mettent en couveuse. Et de là, on attend une chose, et en particulier chez Red Bull, c'est de voir la personnalité, le caractère et le mental de chaque pilote. Et on a constaté, qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que à chaque fois, et c'est le parcours d'Adjar qui a été très bien décrit, dès qu'un mental commence un peu à préfigurer, eh bien tout de suite on lui donne sa chance. Et c'est ça que je trouve génial. Et nos trois Français, même si Gasly, Ocon aujourd'hui entre guillemets sont vieillissants évidemment par le jeune nouveau, par rapport au jeune nouveau, ils sont toujours dans cette course là, ils sont toujours dans cette mécanique là.
Alors mais non, justement Adjar, parce que eux, ils sont pas dans des écuries de deuxième plan si tu flambes chez Alpine, tu vas chez qui? Il y a pas d'écurie première et d'écurie seconde. Ils sont tout seuls. As, l'écurie de Ocon, c'est quoi? Ils sont dans les tréfonds du classement. Donc même si
très
tu performes,
Christophe,
et si tu
Alpine est un mauvais exemple.
Une douzième place. Quoi, Alpine? T'as vu les résultats d'Alpine? Il n'y a aucune possibilité d'évolution.
Alpine est un mauvais exemple. Alpine est un mauvais exemple. C'est-à-dire que Alpine a été pas très bien géré jusqu'à maintenant. Ouais. On verra ce que ça donne avec l'ami Benetton.
C'est un petit peu mieux sur les 5 derniers grands prix, quand même.
Briatore.
Julien
Benetton n'a rien à voir avec
lui. Non, mais c'est l'ancien écurie Benetton. Briatore, pardon. Lapsus révélateur. On verra ce que ça donne, s'il commence à pointer leur nez. Mais Alpine, moi je trouve que Gasly et Ocon au sein d'Alpine ont fait des miracles. La preuve, ils ont gagné des courses, et pas simplement que cette année. Donc c'est fantastique. Mais ils sont aux portes du truc, toi. C'est pas très loin. Et d'ici, est-ce que avec une voiture un peu plus aboutie chez Alpine, je parle, hein, ils puissent déjà être flashés et orientés demain sur une grosse écurie, ça peut encore arriver. Vous le savez très bien. Et pour l'ami Adjar, si jamais en cours de saison là s'affaiblit au sein de Red Bull aux côtés de Verstappen, je peux vous assurer qu'ils vont le coller. Ils vont pas attendre. Et c'est ça qui est impressionnant en F1. C'est-à-dire qu'on donne la chance, ça coûte tellement cher, il y a tellement d'enjeux que dès qu'ils ont quelqu'un qui commence à sortir du panier, eh bien tout de suite ils le prennent, ils l'essayent, et si en 2, 3, 4, 5 courses c'est pas concluant, eh bien ils le rétrogradent. Je trouve que c'est la plus belle manière d'optimiser les carrières, et c'est la plus belle filière qu'on puisse avoir si on parle que de compétition pure.
Mais là où tu as raison, David, c'est qu'on ne boude pas notre plaisir, mais trois pilotes français, c'est génial, et on est très heureux.
Il y en a deux qui sont sur une voie de garage.
Mais la question, c'est de savoir si on
peut se conduire. Ils sont au garage, David, mais je suis désolé. Et Esteban Ocon, il est sur As, qui a encore fait moins bien que Alpine, As. Et Gasly, il est en train de cramer sa carrière chez Alpine, qu'il avance pas. Il y aura aucune possibilité d'évoluer. La saison prochaine, faudra attendre dans deux ans, avec en plus un moteur qui viendra de l'étranger, parce qu'ils ne vont même plus fabriquer leur moteur. Et tu dis que ils sont dans une période où ils peuvent encore éclore au plus haut niveau. Je te dis que non, c'est de là malheureusement sont sur une voie de garage. C'est un autre sujet. Adjar, effectivement, il est au sein de cette écurie qui est en quelque sorte l'écurie bis de Red Bull. S'il réussit de superbes performances, et que dans le même temps Lawson se plante, il faut qu'il y en ait un qui se plante et l'autre qui surperforme. Ouais. Et à ce moment-là, elle aura peut-être sa chance. Mais la voie de garage, Christophe.
Attends, c'est parce que c'est intéressant.
Gasly avait eu cette possibilité. Il était passé de l'écurie seconde à l'écurie top chez Red Bull. Ça a duré quelques mois parce qu'il en 3-4 Grands Prix, il n'a pas réussi à convaincre son team manager. Et ben, il a été dégagé. Donc tu vois, tu as un tout petit créneau où tu peux.
Et le haut niveau, c'est normal. Ce petit créneau existe. Il peut
prendre. Adjar, pour l'instant, pour moi, c'est celui qui a le.
Celui qui a le plus de chance, effectivement.
Le plus de cartes.
Il est dans le giron de Red Bull, effectivement, et c'est pas gage de réussite obligatoire, mais au moins c'est gage de.
Il a un joker dans sa manche, malheureusement. Ocon et Gasly sont un peu à poil,
ils sont à poil, concrètement.
Mais c'est le paradoxe de Red Bull, c'est qu'ils offrent cette carte-là. Mais après, quand il l'offre pas totalement. Parce que tant qu'il y a Verstappen.
Il te la prête.
C'est tant qu'il y a Verstappen chez Red Bull, c'est tout pour Verstappen. C'est soit t'es comme Perez et.
Tu fais pas de vague.
Mais t'amènes un gros sponsor à ce moment-là.
Oui. Voilà. Mais tous les autres, ils ont pas eu la même voiture que Verstappen, donc ils avaient des déficits de performance. Et ils sont comparés, qui en plus Verstappen est l'un des meilleurs pilotes. Ils n'ont pas la même voiture. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Après, pour revenir ce que disait David sur la, en Formule 1, la filière, la garantie sportive qui te permet de monter les échelons et tout, c'est vrai et pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, chez Alpine, Briatore, il a mis un de ses poulains parce qu'il est agent coéquipier de Gasly. Chez Aston Martin, qui peuvent avoir une très bonne voiture dans 2 ans parce qu'ils ont recruté le Adrian Newey, l'ingénieur de truc. C'est le fils du propriétaire Stroll qui est le coéquipier de Alonso et qui est
Stroll, le piston marche bien.
Stroll qui est complètement nul. C'est-à-dire que là, moi, je serais Aston Martin et je recrute un mec, je le paye 50 millions d'euros à un ingénieur pour faire une belle voiture. J'ai Alonso qui a l'expérience, etc. Si Gasly ou Ocon fait des super performances, ben à la fin de 2025, je vais chercher ce pilote-là pour faire la paire avec Alonso.
Ça fonctionne pas comme ça.
Et oui, ça fonctionne pas comme ça parce que économiquement et sportivement, c'est ça qui est dommage parce que eux, ils mériteraient d'avoir.
Mais justement, je suis pas d'accord avec toi, David. Justement, okay, si ça fonctionnait comme ça, ben justement, on aurait une chance de voir nos Français performer parce que justement, le talent, on l'a dit, ils sont dans des écuries qui sont difficiles et malgré ça, ils arrivent à avoir des résultats. Tu te dis que si ils augmentent d'écuries, qui vont devenir écuries compétitives, ils vont réussir. Donc c'est le problème, c'est le piston qu'on n'a pas.
Il était chez Alpine et il redescend d'un niveau encore.
C'est ça le problème.
Il y a la voie de virage. Aujourd'hui, il y a 3-4 écuries qui ont un duo de pilotes qui tient la route.
David veut répondre.
Qui est cohérent.
Vous voulez répondre. Parce qu'il est tout seul sur ce débat, il veut vous répondre. Non. David. Et après, vous pourrez lui répondre.
La voie de garage, Christophe, c'est quand t'es pilote remplaçant. Quand t'as le cul dans un baquet et que t'es en piste, t'es pas sur la voie de garage. Tout est possible. La course, vous la connaissez aussi bien que moi. Tout peut arriver. Il peut y arriver, malheureusement, des accidents, des problèmes techniques. Même, je ne suis pas d'accord avec toi, Julien, sur Red Bull. Red Bull avec, tu dis qu'il y a des différences entre la voiture de Verstappen et la voiture de Pérez, etc. Bien sûr qu'il y a des différences, mais vous savez très bien qu'à chaque course, les voitures avec toutes leurs différences peuvent très bien marcher d'un côté ou de l'autre. C'est déjà arrivé 20 fois. Donc aujourd'hui, le petit Adja, il va peut-être s'asseoir dans une voiture qui est moins performante, peut-être demain moins performante que Verstappen, mais je puis t'assurer qu'avec le talent et le mental, et surtout le mental, et avant tout le mental, il pourra prouver que c'est un grand pilote. Comme Ocon et comme Gasly, je vous le jure, tout est possible. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est pas parce que t'as le mauvais matériel. La preuve, dans des conditions particulières, cette année, vous l'avez dit vous-même, Alpine a réussi
et quelles sont les conséquences tu as vu les conséquences, David? Derrière ça, Ocon qui fait deuxième, une semaine après, il est viré de chez Alpine. Il est obligé d'aller chez As. Et Gasly.
Mais il était déjà viré avant, tu sais très bien qu'est-ce qui s'est passé à Monaco. Il était déjà, quand il a fait sa connerie à Monaco, Ocon était déjà viré d'Alpine.
Tu fais deuxième d'un Grand Prix, on te dit, bon, maintenant tu dégages, tu vas chez As parce qu'on veut plus de toi ici.
Mais parce qu'il y avait un conflit de fonctionnement.
Mais tu sais très bien. Le plateau de la Formule 1 de 2025, donc il va y avoir 10 ou 11 écuries, je ne sais plus. Aujourd'hui, il y a 5 équipes.
4 ou 5 qui sont.
Qui ont un duo de pilotes qui est complètement cohérent sportivement. T'as Ferrari avec Leclerc Hamilton. T'as McLaren qui garde ses deux pilotes. Ils ont été champions constructeurs, c'est normal. Red Bull, ça a du sens ce qu'ils font pour l'instant. Avec Verstappen, ils font monter Lawson. T'as Williams, ils ont quand même Albon. Ils ont pas une belle voiture, mais ils ont Albon et Carlos Sainz. Donc ils ont deux super pilotes. Et Haas, avec leurs moyens, ils ont récupéré Ocon et ils ont Berman, le pilote essayeur de chez Ferrari, qui a fait des points parce que c'est la petite sœur de Ferrari.
Ce qui est un bon coup pour eux, eu égard à leur performance.
Exactement.
Hein, de récupérer
Exactement. Ocon et Berman, c'est très bien. Les autres, il y a un gros pilote et c'est soit un test de jeunes, soit des intérêts économiques. C'est ça qui est terrible.
Okay. Si on revient sur la question du débat, les trois pilotes ont la capacité dans les années à venir à devenir numéro un. À eux de jouer, c'est tout. Et c'est le mental. Si Gasly ou Ocon prouve qu'ils ont un mental sans faille et qu'ils sont capables d'enchaîner des courses, d'être à chaque fois en Q3, d'être à chaque fois classé au port du podium, vous vous assurez qu'ils décrocheront un baquet dans les meilleures écuries, c'est certain.
Nicolas nous appelle au 32-16. Salut Nicolas.
Bonjour JC, bonjour les grandes gueules, ça va ?
Merci d'être avec nous Nicolas. Ben oui, on va très bien et c'est vrai qu'on rêve avec notamment Isaac Hadjar. On a envie d'avoir un Français champion du monde, on ne veut pas lui mettre trop de pression. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce débat Nicolas ?
Alors pour moi, je pense que Gasly et Ocon, je pense qu'ils vont encore peut-être gagner des Grands Prix, mais pour moi ils ne seront jamais champions du monde. Parce que pour moi, je trouve qu'ils sont, c'est pas des racers. Pour moi, on les voit souvent au défilé de mode, des choses comme ça. Je trouve qu'on les voit un peu trop. Par rapport à Max Verstappen, moi je suis désolé. Le meilleur actuellement, c'est Max Verstappen, sauf qu'on le voit pas. Je veux dire.
Ah ouais. Et Hamilton, quand même.
Il
n'était pas dans les défilés de mode ou quoi que ce soit. C'est pas des racers. On va leur dire ça en face.
On en reparlera. Mais pour moi, Hamilton, Ferrari, ça va faire suite. Je l'ai dit dans le Moscato.
Non, mais chez Mercedes, il était champion du monde et il était fan de mode. Il faisait des trucs.
Il a quand même battu tous les records en Formule 1. Il était à toutes les Fashion Week de l'histoire. Donc c'est pas.
Continue le débat. Donc toi, tu mises une pièce sur Isaac Hadjar, c'est ça?
Ouais, voilà, tout à fait. Moi, je le vois, ça fait depuis la Freca, la Formule 3 et Formule 2 que j'observe un peu. Et moi, je trouve que pour moi, il a un peu le même caractère qu'un Verstappen ou même qu'un Piastri là qui est arrivé il y a pas longtemps en Formule 1. Moi, je trouve qu'il est, c'est vraiment un très 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 bon pilote. Et moi, je pense qu'il va faire une année à RB et puis après l'année d'après, il va aller chez Red Bull directement.
Ok, bah en tout cas, on en a parlé dans cette émission et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais c'est vrai que Pierre Gasly te le disait, si tu veux, juste rapidement pour terminer, quand il avait pas la même voiture que Verstappen. Hein,
ah ça. Ouais, il était effondré, le pauvre.
Mais oui, mais on le sait.
Effondré. Ouais, mais qu'il y a une telle différence, il pensait pas que ça allait être comme ça.
Et voilà. Et c'est vrai qu'on se doute pas à ce point-là que c'est si différent et c'est le tout pour Verstappen. Tu as raison.
Non, mais quand tu réussis pas, tu trouves toujours des.
Gasly réussit, c'est un monstre. Mets-le dans une Mercedes, une McLaren.
Je suis d'accord, mais il a prouvé que le mental, sur le long terme, c'est un peu déficient pour l'instant. Il va sans doute progresser.
10h29, on revient dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet, mais c'était très intéressant d'en parler. On va vous parler de basket. Oui, de basket dans quelques instants, parce qu'il y a un report qui fait beaucoup parler. Ça concerne le Paris Basketball. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h34 de retour dans les grandes gueules du sport avec Julien Pileto, David Douillet, Fred Weiss, Christophe Cessieux ce matin. Dans 10 minutes, la crise de la soixantaine signée de notre ami Christophe évidemment. Il vous parlera du Vendée Globe totalement invisible et il ne comprend pas pourquoi notre cher Christophe. Restez bien avec nous. Alors tout de suite, c'est l'histoire d'un report qui fait beaucoup parler. Jeudi, le choc d'Euroleague entre le Paris Basketball et Fenerbahçe a été reporté quelques heures avant le coup d'envoi, car le club parisien ne pouvait pas aligner suffisamment de joueurs valides. L'effectif est décimé par un virus. Les joueurs sont d'ailleurs et ont été placés en quarantaine. Colère du club turc, je cite, « Cela crée un dangereux précédent et ouvre la porte à de potentiels abus dans le futur. La situation qui a conduit au report est indigne du sérieux et du niveau de cette organisation. » Alors cette décision de l'Euroleague de reporter ce match a également été critiqué par Evan Fournier, le français de l'Olympiakos, troisième de la compétition, juste derrière le Paris Basketball. C'est la punchline des GG, rapportée par notre copine Siri, parce que c'était sur X.
RMC, la punchline GG.
Chaque équipe joue tous les soirs malgré des maladies et des blessures. Si vous ne pouvez pas vous présenter avec suffisamment de joueurs, vous devriez perdre le match. Lorsque vous annulez le match, vous permettez aux équipes de manipuler les règles et cela devient dangereux. Cette décision va à l'encontre même du sport de haut niveau. Tu n'es pas apte, tu perds. Quelle est la limite sinon ? On ne joue que quand tout le monde est à 100%.
Et voilà pour cette.
Ça fait vraiment de progrès, phrase. Je trouve, mademoiselle Siri. Hein.
Siri, c'est Siri 2024, voire 2023.
Bonne fête, les GG.
Merci beaucoup, Siri. C'est fou ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Incroyable. Bravo, les copains. Alors, ce report est-il aberrant ? C'est ce que pense Evan Fournier aussi. Oui ou non ? Fred Weiss ?
Non.
Non. Julien Benetto.
Là, pour le coup, j'ai dit plutôt oui.
Plutôt oui, ok. David Douillet.
Mais non.
Non. Christophe Cessieux.
Bah, plutôt non.
Plutôt non aussi.
Un nom tiède.
Un nom tiède ?
Ouais, un nom tiède.
Très bien. C'est très très tiède. Faites très attention. Oui, David.
J'y sais, mais est-ce que tu as donné le résultat du bras de fer ? Excuse-moi de revenir en arrière, c'est absurde, mais il ne semble pas avoir entendu le résultat du bras de fer.
Alors ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, mais tu as été excellent. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et
ouais. Tu. Oui, t'en as rien à faire. Il en a rien à faire. Il a pas les chiffres. Il en a rien à faire. Donc le bras de fer a servi à rien. Merci. Bonsoir.
Tu vas enlever des minutes sur le basket, maintenant, David.
Tu auras une papillote avec un pétard.
On fait. Alors on fait des compètes. Il n'y a plus de résultats. Voilà. C'est nul. On est dans les GG du sport. Il y a pas de résultats. C'est n'importe quoi. Voilà.
Très bien. Je suis vraiment désolé, mon cher David. Le bras de fer des GG. Tu as gagné un petit pourcentage. Voilà. C'est ce qu'on vient de dire dans le.
Bravo David.
Donc, voilà.
C'est pour
Je voudrais qu'on revienne sur le basket. Ce report est-il aberrant? T'es le seul à dire oui. Alors pourquoi oui?
Alors, je dis plutôt oui, mais je suis embêté de dire oui. Je suis embêté parce qu'en fait, ils respectent le règlement. Il y a le règlement de l'Euroleague qui permet ça. Après, je dis plutôt oui parce que moi, venant d'un sport individuel, si t'es malade ou si t'es blessé, et c'est pour ça que je suis surpris que David dise non, bah t'es forfait, tu perds le match.
Et donc tu peux pas comparer un sport individuel et un sport collectif qui est dans un groupe.
Et je comprends ensuite les manipulations que ça peut amener au terme de règlement de la part de certaines équipes. Là, je comprends la phrase d'Evan Fournier là-dessus. Et de Fenerbahçe, que ça peut créer des précédents et que effectivement, si une équipe a deux de ses joueurs majeurs qui sont blessés ou malades, mais que le reste va bien et qu'ils se disent, mais attends, si ce match-là, j'ai pas mes deux joueurs majeurs, on va dire que les autres sont malades aussi et on va reporter le match.
On
peut jouer sur le règlement. Donc je trouve que
ça peut faire jurisprudence.
Exactement.
Et donc ça peut être dangereux.
Il suffit de renforcer le règlement. Il faut voir si les choses sont réellement justifiées. Parce que faire une rencontre où il n'y a plus personne, c'est absurde aussi, d'accord. Et t'as le droit à un report. Point barre. Et puis c'est tout. Et puis après t'es forfait. Si les joueurs sont pas là,
tu dévalorises ta compétition.
Tu améliores le règlement.
Aucun intérêt.
Le sport, le résultat sportif fait être fit et être apte à jouer physiquement, maladie.
Fait partie de la compétition.
Bah, évidemment, le jour J, quand on te demande, fait partie de la compétition. Clément Noël, le week-end dernier, il pouvait pas faire sur un slam de Wimbledon, de Val d'Isère. Il a pas pu le reporter deux jours après. Ça fait partie aussi des
prérogatives. Ne pas être malade.
Le jour J, exactement. Et si tu l'es,
je prends un exemple parce qu'on a fêté les deux ans cette semaine. L'équipe de France de foot, on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé, mais dans cette finale face à l'Argentine où ils ont été contaminés par un virus,
bien sûr.
On reporte pas une finale de Coupe du Monde.
Bah non.
Même si c'est un sport collectif,
ouais, bien sûr.
Oui. Vas-y, Fred.
Ben, alors c'est super simple. Effectivement, je reviens sur ce que vient de dire Julien. Déjà, il y a un règlement. Donc à partir du moment où il y a un règlement et qu'il est appliqué, je vois pas pourquoi on s'en mêle. Ensuite, j'ai du mal à comprendre que Evan Fournier, joueur de l'Olympiakos, parle d'un match qui concerne le Fenerbahçe et le Paris Basket.
Il a encore le droit de donner son avis quand même.
Ouais, enfin j'en ai un peu marre de tous ces gens qui donnent leur avis sans que leur demande.
Du sport parce qu'il l'ouvre surtout. Hein.
Ouais, la demande a déjà été faite.
Donc à un moment ça je comprends pas. Mais effectivement, je peux comprendre qu'on puisse s'imaginer qu'il y a un précédent. Sauf que il y a plusieurs choses quand même. Quand tu es malade comme ça, c'est-à-dire qu'en plus tu peux être contagieux. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on fasse venir les mecs du Fener, qu'on les contamine en plus, qu'on contamine des gens dans le public?
Non, mais ils jouent pas.
En fait, tu dévalorises ta compétition. C'est-à-dire que c'est sur tapis vert, c'est sur blessure, c'est sur maladie
En fait, une demi-finale de Roland Garros, le mec il est blessé, on la remporte pas.
Tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas comparer un sport individuel et un sport collectif. Un sport collectif, tu sais comment c'est un groupe d'équipes pour qui chaque victoire et défaite compte dans un classement qui te permet d'aller en
monter les jeunes. Pareil.
Mais c'est encore une fois, tu dévalorises ta compétition. Ta compétition, elle a des standards de qualité.
Alors donc il faut que tout le monde soit en forme. Il faut que tout le monde soit en forme pour que le match ait lieu.
Non. Il faut qu'il y ait 8 joueurs qui soient en forme.
Ok, mais si jamais. Je prends au mot et je te donne la main David. Je prends au mot. Alors donc, imaginons dans un club, t'as beaucoup de blessures. L'infirmerie est pleine. On parle pas de maladie là. On parle de blessures.
La probabilité que sur 14 ou 15 joueurs, t'aies 7 blessures, c'est quand même très rare.
Nice en Coupe de France.
Mais au rugby, il faut comment? Au rugby, il y a que des blessés.
Très absent.
Honnêtement, la probabilité déjà est très rare. Mais en plus, là, on parle d'autre chose. On parle d'un virus, on parle de quelque chose qui encore une fois peut impacté tout le monde et en fait je comprends même pas.
Mais alors ça moi, c'est la raison pour laquelle je me dis que tu dois reporter. C'est-à-dire que il y a eu l'effet Covid. On a vu que pendant le Covid les matchs étaient reportés quand il y avait trop de gens malades parce que il y avait la possibilité de transmettre le virus d'un joueur d'une équipe à une autre. Et là on se retrouve peut-être dans la même situation. Si le Paris Basket avait été obligé de jouer avec ses joueurs malades à 42 fièvres, déjà ils prennent un risque pour aller gagner les points et puis ils peuvent transmettre le virus à leurs adversaires.
Mais le mec, il est forfait, il a 42 fièvres. Soit tu fais monter un jeune, et je suis désolé.
Tu dévalorises ta compétition. Mais bien sûr que si, tu dévalorises ta compétition.
Sur 32 matchs de saison régulière,
tant pis.
Tu fais jouer les malades et tu leur files la gastro.
C'est parce qu'à un moment, t'as un produit, tu veux que ton produit soit le mieux possible, et à partir du moment où ton produit n'est pas le mieux possible, tu le fais.
Encore une fois,
augmenter les contrôles, je suis d'accord, j'y sais. Augmenter les contrôles. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'il y ait une délégation de l'Euroleague qui puisse se dépasser, arrive à Paris, voit que les malades et constate. Je suis d'accord. Mais c'est tout. C'est le seul truc qu'on puisse faire en plus, en fait.
Ok, on va tous se calmer tranquillement. Vous allez prendre un verre d'eau parce que j'ai appris que. Ah non, il fallait jamais dire ça. Non, il faut jamais
le dire.
Ah si, ça, je peux vous le dire.
Allez boire un verre d'eau.
Calmez-vous et prenez un verre d'eau.
On peut prendre la parole.
David Douillet, bien sûr.
Ah, merci. Non, mais il y a un truc qui est important. Pour appuyer ce que disait Fred, au même titre que tu puisses, ce qu'il a avancé comme excellent argument d'ailleurs, de contaminer l'équipe adverse. La différence entre un sport individuel et un sport collectif, c'est que les gens s'entraînent ensemble. Donc quand il y en a un qui est malade, à l'entraînement, il contamine tout le monde, c'est toute l'équipe qui est malade. Et ça, c'est pas juste, tu vois? Ça, c'est pas normal. Cette possibilité à ce que il y ait toute l'équipe ou une grande partie de l'équipe qui soit forfait parce que il y a eu un virus, peu importe, la grippe, et la disqualifie d'entrée, c'est pas forcément juste. Je pense qu'il faudrait assouplir, détendre le règlement pour les sports collectifs parce qu'il y a une possibilité avant la rencontre de contaminer l'ensemble du groupe. Toi, si tu peux interchanger de banc, en particulier en basket, tu peux changer un parce qu'il y a blessure, il se tord la cheville, il se fait un ménisque, peu importe. Ça, d'accord, tu peux, il faut évidemment pas arrêter le match. Mais quand il y a une contamination collective, quand il y a plusieurs joueurs, la question se pose réellement.
Moi, je peux vous dire qu'on est dans un sport individuel et on joue en équipe. Et en Fed Cup, j'ai des filles qui t'entendent tomber malade pendant la semaine de préparation.
Mais t'as une remplaçante ?
Mais j'ai que 5 joueuses. On l'isole pendant deux jours. Si je pense qu'elle va pas être apte le week-end, j'en rappelle une, effectivement. Et si j'en ai 3 qui sont mortes parce qu'elles ont le virus, etc.
Toi, tu mets une perruque et tu vas.
Je vais pas dire à l'ITF. Je peux pas jouer. On aura la rencontre perdue et ce sera normal.
Voilà. Tu mets une perruque et tu vas.
Non, pas normal.
Non, mais écoutez quand même ces derniers arguments. Parce
alors là, c'est la maladie. Mais là, vous parlez que de la maladie. Mais alors, dans ces cas-là, les blessures. Et là, vous dites, ah, c'est pas pareil. Et ben, au rugby, parfois.
Tu peux pas jouer déjà. Donc à partir de là,
t'es obligé d'avoir des rugby, parfois sur un groupe de 25 ou 30, il y a 15 blessés. Les équipes, elles font jouer les espoirs. Elles font jouer les espoirs ou quoi que ce soit.
Tu sais qu'en rugby, par exemple, dans une mêlée, si tes piliers sont blessés pendant un match et que t'en as plus assez sur le banc, tu ne disputes plus les mêlées. Tu rentres juste en contact, mais tu ne
les mêlées sont factices. Oui, mais ça c'est pendant un match, pas en amont. Si en amont tu le sais, c'est pas ça.
Vous prenez l'argument de la contamination, mais je suis assez d'accord avec Julien. À partir du moment où tu as pas besoin, on n'oblige pas les joueurs à jouer alors qu'ils sont malades. C'est juste que si tu peux pas aligner comme le règlement de l'Euroleague le prévoit, si tu ne peux pas aligner 7 joueurs, tu déclares forfait.
Merci. Comme le championnat du dimanche.
Si ce scénario arrive, c'est le dernier match que Paris doit à tout prix l'emporter pour se qualifier pour le Final Four et qu'ils sont tous malades, qu'est-ce que tu fais et que tu peux pas reporter le match, tu fais jouer tes blessés, tu fais jouer tes blessés et tu contamines tes adversaires.
Voilà. Moi, je trouve.
Attendez, Christophe, ton exemple. Imagine, c'est Paris Basket contre Olympiakos. Et ce match est qualificatif pour le Final Four. Ok. L'Olympiakos, tu crois quoi? Tu crois qu'ils préfèrent? Ils vont se dire,
on va reporter et ils vont jouer à 100% de leur capacité.
Jouer, ils vont préférer jouer
les mecs blessés, être contaminés et être avoir une grippe pendant 3 jours et qualifier au Final Four.
Ouais, exactement. Vas-y David, le mot
de la
fin.
Parler de deux choses différentes. Franchement, on doit faire la différence entre les blessés traumato, tu vois, articulaires, etc., ce qui vaut pour le rugby d'ailleurs, et la contamination. On sait qu'on est dans une nouvelle ère où les gens peuvent se contaminer peut-être plus qu'avant, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est possible.
Ah, d'accord. Mais oui.
Non, mais bon, d'accord. Mais regarde, JC, ce matin, toi, t'as la crève. Tu vas peut-être contaminer
tout
le plateau, là.
Si tu me files la crève pour les fêtes, je vais.
Donc tout le monde va être disqualifié. Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on puisse pas. Ça dégrade la qualité du championnat. On parlait de qualité du championnat, de niveau de jeu, tout à l'heure pour le foot, etc. Mais à partir du moment où tu dégrades la qualité de championnat simplement à cause d'un petit virus, c'est pas normal. On devrait pouvoir avoir une espèce de bulle législative au sein du règlement pour isoler ça en disant voilà, quand une équipe est décimée par n'importe quel virus, et ça pourrait être une jurisprudence Covid, eh bien, il y a une possibilité de reporter le match parce qu'évidemment,
si tu avais été complètement malade, on aurait reporté l'émission, non ?
Ben non. Et si malheureusement tu es contaminé par ma faute, tu vas pas reporter Noël. Noël, ça se passera pas le 30 décembre, ça se passera le 24 décembre. Et faut être prêt le jour J.
Voilà les copains. C'est bien plus important.
Oh, Noël, c'est important aussi. Hein. Merci les copains. Oui, en tout cas, c'était un débat passionnant de vous écouter là-dessus. 10h48, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport avec la crise de la soixantaine. On va vous parler de Vendée Globe. Oui, je vous assure que le Vendée Globe se dispute actuellement. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h50 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Julien Beneteau, David Douillet, Fred Weiss et Christophe Cessieux. À partir de 11h, on va vous parler de cette polémique au Grand Bornand autour de la Coupe du Monde de biathlon et de l'acheminement de la neige. Voilà, ce sera notre dossier à partir de 11h. Mais tout de suite, il aura 60 ans. Retenez bien cette date. Le 20 avril prochain. Alors c'est l'instant Cessieux.
RMC.
C'était nul de tous les points de vue, quoi. On peut pas faire plus nul.
La crise de la soixantaine.
Oui, moi j'en ai marre, j'en ai ras le bol.
Eh oui, il en a marre, notre ami Christophe Cessieux. Pas du tout.
Papy Zanin, Tati Daniel, je sais pas qui là.
Alors, est-ce dû à la crise de la soixantaine, cette petite pique qu'il va nous adresser aujourd'hui? Christophe, tu veux nous parler du Vendée Globe?
Ben oui, parce que je sais pas si, comme moi, vous adorez les histoires d'ouragans dans les océans australes, les récits de marins pris dans des tempêtes homériques, avec des vagues gigantesques, un océan rendu blanc sous l'effet du vent et des marins qui ne doivent leur salut qu'au sacrifice d'autres marins partis à leur recherche dans des conditions incroyables pour tenter de les sauver. Si comme moi, tout cela vous passionne, eh bien, vous devez être bien déçu ces derniers temps, parce que le Vendée Globe 2024, cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, eh bien, n'a plus vraiment la même saveur cette année que celle des éditions qui l'ont précédée. À croire que sous l'effet du réchauffement climatique, les tempêtes auraient déserté les océans pour gagner la Terre, nous laissant, nous, justement, pauvres terriens, en mal de récits de sauvetage incroyables. À croire aussi que les bateaux conçus ces dernières années par les architectes navals seraient capables désormais de résister à tous les tsunamis des océans de la planète. Et le résultat, eh bien, c'est que cette formidable course qui, durant les précédentes éditions, nous avait tenus en haleine, ne passionne plus vraiment les foules et a du mal à convaincre les rédactions de leur accorder une place digne de ce nom. Dans le journal L'Équipe, qui est pourtant la référence en matière d'actualité sportive, pas une ligne sur le Vendée depuis 3 jours. Les attachés de presse des différents concurrents ont beau faire la danse du ventre pour vendre les histoires de leurs navigateurs aux reporters chargés de relater la course, ceux-ci ne parviennent pas à convaincre leur rédacteur en chef. Coco, tu me sonneras lorsqu'il y aura un dématage au fin fond du Pacifique, que les marins auront noyé leur Starlink et qu'ils seront en perdition à cheval sur la coque retournée de leur rafio. Là, ça m'intéresse pas. Pour le moment, ta course, on s'en tape, les trains qui arrivent à l'heure et les bateaux qui flottent, c'est pas mon truc. Et oui, effectivement, pas facile à vendre une épreuve où la quasi-totalité des concurrents est encore en course, alors justement que l'on vient de passer la moitié du parcours. Heureusement, voici que se profile à l'horizon un moment béni pour les navigateurs et leurs attachés de presse. Ce moment de grâce, c'est la période des fêtes. Ce moment où la plupart des compétitions s'arrêtent net, laissant journalistes et passionnés de sport dans une détresse totale, sans plus rien à lire, ni écouter, ni même regarder. Et dans ces moments-là, Vlatipak, le Vendée, renaît de ses vagues. Et oui, quand on ne sait plus comment remplir ses émissions, que tous les titulaires sont partis jouer au golf en Provence ou faire du ski dans les Alpes, la petite histoire du réveillon de Noël de la la navigatrice qui a laissé ses enfants seuls à 8000 km de là, eh bien soudainement se met à passionner les foules et les rédacteurs en chef. Et si en plus de ça, une petite tempête de derrière les fagots venait dans les jours qui viennent à secouer la flotte et réveiller les marins, le Vendée Globe retrouverait, comme tous les 4 ans, une place digne de ce nom dans les médias du monde entier. Alors, vive les tempêtes et vive Noël.
Ok, merci Christophe. Qu'avez-vous envie d'ajouter? C'est vrai que le Vendée Globe, alors je précise tout de même parce que ça reste du sport, que Charlie Danin est toujours en tête, ils sont 3 skippers compétition.
C'était difficile
au milieu du Pacifique, ils viennent de passer le point Nemo, mais c'est toujours Charlie Danin qui mène la flotte derrière lui, Johan Richomme et bon. Sébastien Simon.
Le point Nemo, c'est l'endroit le plus éloigné de toute Terre.
Exactement. Non, Christophe a un petit peu raison. C'est vrai que c'est, je sais pas comment il pourrait faire pour que ça intéresse plus. Je pense qu'il souffre de petites choses. C'est que les marins qui participent au Vendée Globe sont un peu moins médiatiques et charismatiques qu'une certaine génération de marins et les Franck Camas, les Perron, les Gabart, les Coville, les Desjoyaux, tout ça. Ça, c'est indéniable. Et je pense que ça va s'accentuer cette, comment dire. Parce que ce désintérêt entre guillemets pour le Vendée Globe, c'est qu'il y a deux des marins les plus emblématiques français qui sont partis faire le trophée Jules Verne hier et avant-hier, et que eux, Gabart et Coville, et que eux, s'ils battent le record du monde pendant que les autres sont encore en mer, ils vont attirer l'aspect médiatique.
C'est encore pire. En fait, ce qui m'a toujours plu dans le Vendée Globe, c'est le début, c'est le départ.
Ouais,
après, c'est difficile à suivre.
Bien sûr, c'est les sauvetages, c'est surtout les sauvetages.
Oui, mais il faut pas espérer, c'est pas sauvetage.
Mais c'est vrai qu'en plus, la publicité qui a été faite par rapport au confort accentué, je suis pas sûr que ça.
Ah, le mec qui commande le McDo pour ses enfants avec la Starlink, ça a pas aidé, franchement, au côté mythique de l'époque.
On suit des aventuriers, maintenant on suit des mecs qui commandent sur
Uber Eats. En même temps,
ils se font.
Je vais faire un conseil extrême, mais c'est l'image que ça donne.
Ils se font brasser comme des brutes, ils portent des casques, des ceintures de sécurité, il y a un bruit incessant dans leur bateau.
Le problème, c'est que pour le
grand public, tout va bien pour eux, ils regardent la télé alors que
ça raconte, c'est faux, mais c'est l'image.
Allez, 10h56, on se retrouve dans quelques instants pour vous parler d'une polémique au Grand Bornand. C'est la Coupe du Monde de biathlon que vous allez suivre évidemment tout le week-end sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.